À toutes et à tous. Et en effet, donc nous quittons le sermon sur la montagne pour période de Noël oblige, et c'est heureux. Et bien pour nous plonger donc dans un texte de l'Évangile qui va nous préparer pour Noël. Donc je vais lire cette page 660 à partir du verset 57 dans ce chapitre 1. De l'évangile de Luc. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom ». Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit son nom et Jean. Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. Il est ici question de Zacharie. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes dans la période de l'Avent, c'est-à-dire que nous nous préparons à Noël. Mais très sincèrement, quel intérêt ? Qui n'est pas au courant que c'est bientôt Noël ? Alors, nos rues sont décorées, nos boîtes aux lettres débordent de publicité pour des jouets, nous avons des sapins qui sont décorés. Même les prédicateurs se sont décorés pour les prédications à l'approche de Noël. Il est très clair qu'on ne peut pas passer à côté de Noël. Et pourtant, si, on peut passer à côté du véritable Noël. Car, disons-le, notre société s'est inventé son propre Noël. Un Noël, malheureusement, dont le sens a été dévoyé, et elle l'assume de plus en plus ouvertement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette année, une chaîne de télé payante a sorti un nouveau spot publicitaire et elle reprend cette thématique de Noël. Alors, on y voit un des rois mages qui effectue un long périple pour se rendre à la crèche. Mais une fois arrivé à la crèche, il entre dans la crèche, dans la première pièce. Et voilà ce qu'il trouve. Il trouve le petit Jésus abandonné dans son berceau. Personne pour l'adorer. Pourquoi ? Eh bien parce que Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, les deux autres mages, tous sont dans la deuxième pièce, la pièce d'à côté. Ils sont tous religieusement assemblés autour de la télé. Voilà qui résume bien le Noël occidental moderne. Une fête commerciale où l'on célèbre la consommation. Alors, la période de l'Avent, je pense qu'elle est utile. Elle est même nécessaire pour retrouver le sens originel de Noël. Alors, certains diront, oh, c'est chrétien, mais quelle bande de rabat-joie, c'est pas possible. Pour une fois qu'on peut un peu se lâcher, on va bien manger, on va bien boire, allez, v'lan, les voilà qui nous recollent leur religion. Des rabat-joie. Mais c'est peut-être tout le contraire. La véritable joie ne se trouve pas forcément dans le foie gras, mais peut-être dans le véritable message de Noël. Alors le texte de ce matin nous éclaire sur ce véritable message de Noël, et je vous propose trois temps. D'abord, nous verrons ce que nous apprend le silence de Zacharie, parce que comme nous allons le voir, Zacharie s'est retrouvé muet pendant 9 mois et 8 jours. Donc, que nous apprend le silence de Zacharie ? On va parler de la grâce de Dieu. Ce sont les versets 57 à 67. Puis, nous verrons ce que nous apprennent les paroles de Zacharie sur Dieu et le Messie. On parlera du salut, versets 68 à 75. Et enfin, on terminera par voir ce que nous apprennent les paroles de Zacharie sur son fils, Jean-Baptiste. On parlera de la repentance, versets 76 et 77. Alors d'abord, le silence de Zacharie nous montre la grâce de Dieu. Alors là, je vous propose de voir, là encore trois temps, l'expérience de Zacharie avant de relever le contraste avec celle de Marie. Et enfin, nous découvrirons ce que cela nous apprend sur Dieu. Mais commençons par voir le cas de Zacharie. Ah, je ne pense pas qu'on y arrive, mais bon, on va essayer. Voilà, merci à la technique. Alors, bon, ça nécessite un petit flashback, parce que vous l'aurez compris, là, dans ce texte que nous avons lu, nous arrivons au milieu d'une histoire qui a déjà commencé. En effet, l'évangile de Luc commence en nous parlant d'un couple, Zacharie et sa femme Élisabeth. Un couple bien sous tout rapport, puisqu'au verset 6 du chapitre 1, il nous est dit qu'ils étaient justes devant Dieu. D'ailleurs, il se trouve que le mari, Zacharie, n'est pas n'importe qui. Zacharie est un prêtre. C'est-à-dire qu'il est au top de la hiérarchie religieuse. Seul problème, le couple est sans enfant et sans espoir d'en avoir parce qu'ils sont trop âgés. Mais voilà que la chance tourne. Le sort désigne le prêtre Zacharie pour aller entrer dans le temple. Alors il faut savoir que c'est un événement qui ne se produit qu'une fois dans la vie d'un prêtre. On évalue à une chance sur 18 000 pour se trouver désigné pour ce service. Alors vous imaginez l'excitation de Zacharie, hein, malgré son âge. Et donc il entre dans le temple, lieu de la présence de Dieu, et là un ange lui apparaît. Et cet ange lui annonce qu'il aura bientôt un fils. Formidable. Mais comment réagit Zacharie ? Voici ce que l'ange lui dira au verset 20. « Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, où son enfant naîtra. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que tu n'as pas cru. » Zacharie n'y croit pas. Et son manque de foi lui vaut de se retrouver muet pendant 9 mois. Un prêtre qui ne croit pas, voilà qu'il affiche mal. Alors d'autant plus que l'évangéliste Luc enfonce le clou. Bon ben je vais plutôt faire appel à la technique pour passer les slides. Alors, notre évangéliste Luc enchaîne avec le cas de Marie. Et là, il y a un gros contraste, un contraste intentionnel, puisque Luc entremêle les deux récits, celui de Zacharie et celui de Marie. Dans les deux cas, nous avons un ange qui annonce une naissance. Pour Zacharie, la naissance de Jean-Baptiste. Pour Marie, la naissance de Jésus. Mais la grande différence se trouve dans la réaction de Zacharie et de Marie. Et la grande différence se trouve dans la foi. Parce que Marie, elle, accepte de croire. C'est ce que nous apprend d'ailleurs la propre femme de Zacharie. Au verset 45, elle dit à Marie « Heureuse celle qui a cru ». Donc, pour résumer, nous avons d'un côté un prêtre expérimenté qui est au top de sa carrière ecclésiastique, mais qui manque de foi. Et de l'autre côté, on a une jeune femme inconnue de tous, qui vient d'un village paumé, mais qui croit. Première application pour nous. Dès le début de son évangile, Luc nous place devant un choix. Quelle attitude allons-nous adopter face à Noël ? Celle de Marie, celle de la foi, celle qui regarde à Dieu, ou celle de Zacharie, celle du doute, celle de celui qui regarde à soi-même. Mais venons-en à ce que cela nous apprend sur Dieu. Alors la réponse, cette fois-ci, se trouve dans notre texte. Donc je vous rassure, on n'a pas lu ces versets pour rien. Donc dans les versets 57 à 67. L'histoire se poursuit et l'enfant promis à Zacharie arrive. Élisabeth accouche. Mais le père est toujours muet. Durant ces 9 mois de mutisme, Zacharie a réfléchi. Et on voit au verset 63 que désormais il entre dans la volonté de Dieu. Verset 63, Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean » en parlant de son fils. « Son nom est Jean ». Tous furent dans l'étonnement. En effet, forcément, on doit donner un nom au bébé, et la tradition voulait qu'on donne le nom du père, surtout quand ce père était quelqu'un d'aussi illustre que Zacharie. Mais Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, a demandé à Zacharie de nommer son bébé Jean. Et là, on voit que Zacharie obéit à Dieu. Maintenant, il accepte le plan de Dieu. Et on sait que la foi est une obéissance. Zacharie a retenu la leçon. Et le nom que Dieu donne à ce bébé est lourd de sens. Le bébé s'appellera Jean. Ça veut dire « Dieu fait grâce ». Dieu fait grâce. Et c'est précisément ce que Dieu a fait avec Zacharie. Ce dernier a failli, il n'a pas cru. Mais Dieu le délivre de son mutisme, il lui fait grâce. La prêtrise de Zacharie, son service dans le temple, tout ça ne l'a pas empêché de devenir muet. Mais ce qui le rétablit dans son état, c'est la grâce de Dieu. C'est le moment où Zacharie accepte cette grâce en nommant son fils Jean, Dieu fait grâce. Alors l'auteur ne pouvait pas mieux commencer son évangile en montrant la force de la grâce de Dieu. Malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, Dieu veut nous faire grâce. Et Noël, c'est Dieu qui fait grâce. Alors encore faut-il être conscient que nous avons besoin de sa grâce, parce que nous sommes tous comme Zacharie en fait, jamais à la hauteur des exigences de Dieu. Mais en sommes-nous conscients? Ou bien notre religiosité nous suffit-elle? Nous allons souvent à l'église. Ou peut-être que ce sont nos œuvres qui nous rassurent. Après tout, nous ne sommes pas si mauvais. Nous avons donné au Téléthon. On prend soin de la planète, on trie ses déchets. Nous sommes des parents aimants, des conjoints fidèles. Quand bien même, Noël est un rappel. Nous avons tous besoin que Dieu nous fasse grâce. Ce sera d'ailleurs le message du fils de Zacharie, de Jean-Baptiste. Tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. Personne n'est juste devant lui. Même son père, Zacharie, un prêtre, avait besoin de la grâce de Dieu. Mais Noël est une fête, car Dieu a envoyé Jésus précisément pour cela, pour nous sauver. Et donc passons à notre seconde partie. Ce que nous apprennent les paroles de Zacharie sur Dieu et son Messie, le salut. Donc ce sont les versets 68 à 75. Alors Zacharie reparle, et c'est heureux pour nous, parce qu'à partir du verset 68, il va faire une prière ou un cantique, qui est riche d'enseignements. Alors cette prière parle avant tout du Messie, c'est-à-dire le grand roi libérateur qui était tant attendu. Et Zacharie liste trois éléments essentiels qui constituent le cœur de ce qu'est Noël. Il parle d'un Dieu qui sauve, versets 68 et 69, un Dieu qui sauve pour tenir ses promesses, 70 à 73, et enfin un Dieu qui sauve pour se constituer un peuple saint et juste, versets 74 et 75. On va voir rapidement chacun de ces trois éléments. Alors d'abord, Noël, c'est un Dieu qui sauve. On peut relire les versets 68 et 69. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. » Noël est bel et bien une fête, parce que Noël marque la venue d'un sauveur. Dieu a racheté son peuple et Dieu lui envoie un sauveur. Alors cette idée rappelle la sortie d'Égypte. Le peuple hébreu s'est retrouvé en esclavage en Égypte et Dieu l'en a délivré. Et nous savons que cela préfigurait ce que Jésus allait accomplir. Jésus est venu pour nous libérer et pour nous libérer de l'esclavage du mal et aussi pour nous donner la vie, nous sauver de la mort. Alors oui, il y a de quoi faire la fête à Noël. Ensuite, à Noël, Dieu sauve pour tenir ses promesses. On peut relire les versets 70 à 73. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Toutes les prophéties de l'Écriture, qui sont contenues dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, pointent vers Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament vivent des épreuves, parfois des délivrances, mais tous, prophétiquement, voient au-delà. Et ils savaient tous qu'un jour, une délivrance complète, totale, arriverait. Et cela s'est accompli en Jésus. Jésus vient pour nous délivrer de notre ennemi, le mal. Il vient pour vaincre Satan et le péché. Alors cette référence aux anciennes prophéties nous apprend notamment deux choses. La première, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Cela signifie que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous appuyer sur ses promesses. Et la Bible regorge de promesses que Dieu nous fait. Alors lorsqu'on est découragé, c'est un exercice utile et bienfaisant de revenir à ses promesses. La seconde chose, c'est que Noël n'est pas un plan B. Dieu n'improvise pas une solution de rechange avec Jésus. Dieu maîtrise l'histoire d'un bout à l'autre. Depuis toujours, Dieu a un plan pour le salut des hommes. Et il a même annoncé ce plan à l'avance, notamment par les prophètes. Alors cela devrait être une grande source de réconfort pour nous. Parce que bien souvent, nos vies peuvent nous paraître chaotiques. Ce qui nous entoure est souvent bouleversé. Mais souvenons-nous que rien de tout cela n'échappe au contrôle de Dieu. Enfin, à Noël, Dieu nous sauve pour se constituer un peuple. On relit les versets 74 et 75. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alors on a souvent une vision de Noël très centrée sur nous-mêmes. On voit Noël comme le cadeau que Dieu nous fait. À Noël, Dieu viendrait déposer Jésus au pied de notre sapin. À Noël, Dieu nous donne le cadeau du salut. Mais ces versets nous montrent un autre point de vue. Ces versets renversent la perspective. La venue de Jésus à Noël a pour but de nous offrir à Dieu. Jésus, par son œuvre à la croix, nous rend présentables devant Dieu son Père. Et il nous offre à son Père pour que nous le servions. Il nous déclare juste, il nous met à part pour faire de nous les serviteurs de son Père. Ces versets résument notre vocation, servir sans crainte notre Dieu en marchant dans la sainteté et la justice. Alors attention, il ne s'agit pas de servir Dieu pour obtenir son pardon, mais de recevoir son salut pour ensuite le servir en retour. Alors terminons en voyant notre troisième partie. Ce que nous apprennent les paroles de Zacharie sur son fils Jean-Baptiste, la repentance. Ce sont les versets 76 et 77. Alors disons-le, Zacharie a beaucoup progressé durant ses 9 mois de mutisme. On voit qu'il donne la première place à Dieu et à son Messie, ce qui n'est pas toujours évident pour le parent d'un nouveau-né. Hein. Moi, j'ai été nouveau papa, et les gens qui visitaient mon petit Charles, ils m'entendaient souvent parler de mon fils, avant tout. « Oh, qu'il est beau, hein, vous ne trouvez pas ?» Et puis, il allait réveiller, n'est-ce pas ? Et puis, bon. Eh ben non, Zacharie, lui, donne la première place à Dieu et à son Messie. Mais pour autant, il évoque quand même son propre fils, Jean, dans les versets 76 et 77. Et je vous propose de retenir 2 choses de cela. La première, c'est que Dieu associe les hommes à son œuvre. Et la seconde, c'est tout petit, Dieu nous appelle à la repentance. Alors d'abord, Dieu associe les hommes à son œuvre. Nous l'avons dit, Jean ne sera pas le Messie. Mais néanmoins, il se voit confier un rôle important. Verset 76, il sera prophète du Très-Haut. Le prophète déclare aux hommes ce que Dieu lui donne à dire. Et ce faisant, Jean va préparer le chemin du Messie, de Jésus. Alors Dieu aurait pu se passer de lui, mais dans sa souveraineté, il associe Jean à son œuvre. Alors, nous ne sommes pas, vous et moi, des prophètes au sens de ce texte, nous ne sommes pas des Jean-Baptistes. Pour autant, Dieu nous associe à son œuvre de salut. Et notamment, il attend de nous que nous partagions le message de Noël. Alors, il est vrai que nous ne préparons pas la première venue de Jésus. Elle a eu lieu il y a de cela bientôt 2000 ans. Mais nous sommes appelés à préparer sa seconde venue. Jésus est le roi choisi par Dieu. Son règne est déjà bien réel, bien que voilé. Mais nous savons que Jésus va revenir pour juger et pour régner. Et cela, Dieu nous demande de le proclamer. Alors, en ce sens, nous aussi, nous devons préparer le chemin du grand roi. Alors d'abord, dans nos propres vies, mais aussi là où il nous a placés, au lycée, au travail, dans cette ville, dans ce pays. La seconde chose que révèle le ministère de Jean-Baptiste, je vais demander, voilà, merci, c'est que Dieu nous appelle à la repentance. Alors le verset 77 livre le contenu de la prédication de Jean-Baptiste. Il devra, je cite, « donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés ». Jean se voit confier la difficile mission de parler du péché. Et c'est vraiment pas facile. Alors, vous le savez, Noël est l'occasion de nombreux repas. Et pour qu'un repas se passe bien, la nourriture c'est important, mais l'ambiance est primordiale. Alors c'est toujours super quand on a quelqu'un autour de la table qui met l'ambiance. Et on a tous dans nos familles l'oncle farceur, le grand-père rigolo, qui ont toujours une histoire qui détend l'atmosphère. Eh bien Jean-Baptiste n'était pas de cela. Alors imaginez votre repas de Noël avec lui. Donc voilà, ça se présente bien, chacun s'est mis sur son 31. Or déjà, ne vous attendez pas à ce que Jean-Baptiste vienne en smoking. Non, il viendra habillé misérablement. Il se mettra au bout de la table. Bon, il boira de l'eau, mangera peut-être une ou deux sauterelles. Mais sinon, grand silence. Alors évidemment, par politesse, vous allez quand même lui donner la parole, bon, juste à un moment durant la soirée. Et sinon, Jean-Baptiste, comment ça va? Les affaires, ça marche? La soirée, ça va? Ça te plaît? Alors voilà ce qu'il vous aurait sans doute répondu. On lit cela donc, dans Luc 3, je vous invite simplement à écouter. Voilà ce que Jean-Baptiste répondait. Jean-Baptiste disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Donc là, forcément, vous auriez regretté de lui avoir donné la parole. Ça va faire un blanc dans le dîner. C'était un message assez peu diplomate. La race de vipère, c'est la race humaine. Nos propos, nos actes, nos personnes sont bien souvent remplis de venin. Le problème que Jean-Baptiste révèle, c'est le péché, le mal qui touche tout homme. Alors, si vous aviez invité Jean-Baptiste à dîner, aurait-il gâché votre Noël ? Il aurait sans doute gâché votre dîner, mais peut-être pas votre Noël. Au contraire, il aurait redonné tout son sens à votre Noël, parce que pour saisir la beauté de Noël, il faut d'abord comprendre la gravité de notre problème. Voilà à quoi sert la venue de Jean-Baptiste à révéler notre problème, le péché. Et voilà en quoi Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus. Jean est le révélateur du problème, Jésus est la solution à ce problème. Jean dénonce notre péché, Jésus vient pour prendre sur lui notre péché et pour se mettre au bénéfice de ce que Jésus a fait. Chacun doit passer par l'étape de la repentance. Alors il est temps de conclure. Ce passage est un bon condensé de l'Évangile. Il nous parle d'un Dieu qui fait grâce, d'un Dieu qui nous sauve. Mais pour nous en saisir, ce texte nous lance un appel, celui de la foi, celui de la repentance. Car le salut suit un ordre. Venir à Dieu passe par deux étapes. D'abord, être convaincu de péché, et ensuite, recevoir la grâce. Alors si nous ne sommes pas encore passés par là, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ou durant ce Noël 2013 ? Vous passerez alors sans doute le plus beau Noël de votre existence. Et pour ceux qui ont peut-être déjà fait ce parcours, le temps de l'Avent est l'occasion de nous le rappeler, de s'assurer que nous avons toujours cette attitude de repentance et de savourer cette grâce qui nous a été faite. Alors, au verset 78 et 79, Zacharie termine ainsi. Il revient sur le Messie, sur Jésus. Le soleil levant, il s'agit de Jésus, du Messie, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Quel beau final! La paix. N'est-ce pas là un cadeau qui fait envie marcher sur le chemin de la paix ? À Noël, Dieu guide les hommes vers la paix. La vraie paix. Pas seulement la pacification de nos relations, pas seulement l'apaisement de nos luttes intérieures, mais avant tout la paix avec Dieu lui-même. Car en Jésus, Dieu permet notre réconciliation avec lui. Voilà la paix que Dieu nous offre à Noël. Alors, quel sera notre Noël ? Nous avons le choix entre deux pièces. Soit nous fêtons Noël autour d'une chaîne payante, en profitant de programmes sans doute très intéressants, notamment la retransmission des matchs de Ligue 1. Soit nous restons dans la première pièce. Ah. Si nous restons dans la première pièce, nous fléchissons le genou devant cet enfant. Et nous recevons sa grâce, son salut et sa paix. Que nous puissions être très nombreux à rester aux pieds de Jésus. Je vais prier pour terminer. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps de l'Avent. Aide-nous à prendre le temps pour nous souvenir, pour nous rappeler de ce que tu as fait à Noël. Merci de nous avoir envoyé Jean-Baptiste pour nous révéler l'étendue du mal qui nous touche, pour nous dire avec honnêteté qui nous sommes réellement, pour nous montrer aussi l'abîme qui sépare un Dieu saint comme toi d'hommes pécheurs comme nous. Merci de nous amener à une salutaire repentance. Merci Père de nous avoir envoyé ton Fils, Jésus. Il est venu pour mourir à notre place, pour subir le châtiment que méritaient nos cœurs mauvais. Et ce faisant, il nous a sauvés. Et tu nous as fait grâce. Désormais, par son sacrifice, nous sommes en paix avec toi, réconciliés avec notre Créateur. Nous pouvons même t'appeler notre Père. Dieu Tout-Puissant, fais de nous tes serviteurs. Aide-nous à proclamer ce beau message de Noël. Donne-nous le courage d'appeler à la repentance et de nous appeler à la repentance. Et donne-nous la joie de dire autour de nous ce salut, cette grâce que tu offres gratuitement, de la dire à tous ceux qui acceptent de se confier en Jésus. Au nom de ton Fils. Amen.